Nous voulons à présent méditer la parole de Dieu. Nous sommes depuis plusieurs mois à l'écoute de l'enseignement de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Et je vous invite à lire dans Matthieu au chapitre 6, d'abord les 6 premiers versets et ensuite les versets 16 à 17. Matthieu 6, à partir du premier verset. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père, qu'il est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Voilà un texte qui nous met en débat. Faut-il montrer notre piété ou faut-il au contraire la cacher? Devons-nous chercher à être vus des hommes ou est-ce au contraire la trahison de la piété que d'être visible? À l'ère des médias, si l'on veut être connu, il faut se montrer, il faut s'afficher. Les hommes politiques le savent. Eux qui n'existent que s'ils font parler d'eux. On parle de moi, donc je suis. Jésus attire notre attention sur ce qui se fait sans que personne ne le sache. Il nous invite à valoriser l'action dans le secret, dont seul notre Père céleste sera le témoin. Alors, sommes-nous appelés à être des chrétiens incognito ? Des chrétiens transparents, des chrétiens qui ne se montrent jamais, qui ne diront jamais qu'ils ont fait quelque chose de bien. Lorsqu'on m'interroge sur notre Église, j'ai du plaisir à dire, par exemple, que nous aimons témoigner de notre foi, mais que nous aimons aussi témoigner de notre souci des personnes dans leurs besoins quotidiens, par la distribution de colis alimentaires ou des repas chauds en hiver. Il m'arrive de parler des équipes qui s'engagent dans ces services. Devrais-je me taire pour respecter le principe que notre main gauche ne doit pas savoir ce que fait notre main droite? Devons-nous agir dans le secret, dans le silence, pour être sûrs d'être absolument authentiques? Mais Jésus, qui nous invite ici à l'action dans le secret, nous a aussi dit, et nous l'avons déjà lu, qu'il voulait que notre lumière brille devant tous les hommes. C'est au chapitre 5, verset 16, que votre lumière brille devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père céleste. Que faut-il donc montrer? Et que faut-il cacher? Pourquoi montrer? Pourquoi cacher? Où est l'orgueil? Où est l'humilité? Où est l'authenticité? Où commence la mise en scène? Où est la vérité? Où est l'hypocrisie? Voilà les débats que ces quelques lignes ont fait jaillir dans mon esprit. Gardez-vous, nous dit Jésus, de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu par eux. La justice dont il est question ici est assez ciblée. Il s'agit d'actes particuliers de piété, il s'agit de l'aumône, de la prière et du jeûne. Jésus très clairement s'adresse à un contexte où ces choses sont valorisées et où ces choses sont aussi valorisantes. Dans le judaïsme de son temps, aujourd'hui encore, l'aumône, la prière, le jeûne font partie des piliers de la piété. Et c'est vrai que dans un milieu ou dans une société qui sont imprégnés de la foi, c'est très valorisant que de se montrer généreux, de se montrer pieux, de se montrer prêt à se priver de nourriture pour des raisons religieuses. Dans notre société à nous, notre société laïque et sécularisée, c'est différent. Seule l'aumône garderait une bonne presse. Et encore, on préfère la générosité à l'aumône, la générosité laïque et désintéressée. L'aumône, elle, on la juge beaucoup plus condescendante et intéressée. Mais la prière et le jeûne dans la société d'aujourd'hui ne nous vaudront pas grand galon de la part des gens qui nous entourent, de nos contemporains. Si vous êtes au restaurant et que vous priez avant votre repas, que vos voisins vous voient en train de faire cela, ils ne risquent pas de vous dire ou vous ne risquez pas de les entendre dire de vous « voilà quelqu'un de bien ». Aux États-Unis peut-être, mais pas en France. Alors oui, nous sommes dans une autre société que celle de Jésus en son temps. Ceci dit, en comprenant que dans la société de Jésus, tout cela était très valorisant, ne boudons pas notre plaisir devant l'humour bien décapant de Jésus. Notre Seigneur nous fait ici quelques tableaux dignes des meilleurs caricaturistes. Et il s'attaque à quelque chose d'assez détestable. La foi qui se met en scène, la piété qui se fait mousser soi-même devant les autres. Voyez cet homme, ce premier homme donc, que décrit Jésus, profondément pieux, qui sort de la synagogue et qui croise dans la rue des personnes dans le besoin. Certainement va-t-il faire quelque chose? Va-t-il avoir un geste? Si tu vois un homme nu, recommandait le prophète Ésaïe, si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. C'est beau la sensibilité à l'autre, c'est beau la générosité. Et voilà notre homme, en effet, qui s'arrête. Mais au lieu de considérer des personnes qui sont dans le besoin, que fait-il? Il regarde partout autour de lui. Est-ce qu'on voit que je vais faire quelque chose? Est-ce qu'on voit que je vais faire quelque chose? Et il sort de sa tunique, non pas une bourse, mais une trompette. Ta-ta-ta-ta. Mesdames et messieurs, regardez-moi. Regardez ce que je vais faire. On se croirait au cirque avec l'annonce d'un nouveau numéro. Et lorsque tous les regards sont fixés sur lui, alors très humblement, bien sûr, il donne sa pièce avant de continuer sa route, tout pétri, tout pénétré de sa piété. Très caricatural. Calvin a donné une interprétation encore plus subtile de cette attitude, l'histoire de la trompette. Il a proposé de penser que la trompette pourrait se justifier par notre monsieur comme une façon d'inviter les pauvres à venir vers lui. Donc extérieurement, il ferait ça comme s'il invitait les pauvres à venir vers lui, mais en réalité, c'était bien sûr pour se faire voir. On voit ici que c'est la générosité qui se met en scène. On dirait presque, vous savez, un de ses patrons qui, au nom de son entreprise, fait un don au Téléthon. Un don laïque et désintéressé, bien entendu. Mais on sait qui est l'entreprise qui a donné et tout le monde sait le montant qui a été donné. Qu'est-ce que ça fait du bien que de voir Jésus crever ce genre d'abcès et se moquer ainsi des mises en scène de la générosité. Et voilà cet autre homme, très pieux lui aussi, d'une humilité tout aussi remarquable. C'est l'heure de la prière. Et dans ces sociétés, comme aujourd'hui en islam, à l'heure de la prière, c'est le moment où tout s'arrête. Chacun, qu'il soit au temple, qu'il soit à la synagogue, ou même dans la rue, respecte ce moment, là où il se trouve, un peu comme lorsqu'il y a chez nous une minute de silence, on s'arrête là où on est. Et malheureusement, notre homme si pieux, si humble, se trouve, à l'heure de la prière, juste au carrefour le plus passant. Pas de chance. Il est obligé de s'arrêter là, devant tous. Sauf que la coïncidence était beaucoup calculée. Il s'est arrangé pour que, comme par hasard, à l'heure de la prière, il soit au carrefour le plus passant. Il doit prier devant les autres, au vu de tous. Il doit, le pauvre, montrer sa piété. Ils aiment prier debout au coin des rues, nous dit Jésus. Et il s'arrange pour être là, comme par hasard, mais en toute simplicité, bien sûr. Deuxième caricature. Et voilà un troisième homme très pieux, lui aussi, d'une consécration à Dieu remarquable, d'une foi intense, très engagée. Cet homme jeune, ça se passe entre lui et Dieu simplement. Ça regarde personne d'autre, promis, juré. Sauf que notre homme, ce jour-là, arbore une mine si défaite, des joues si creuses et une démarche si épuisée qu'on est obligé de penser que certainement il doit être au cœur d'un jeûne prolongé de plusieurs jours. On n'a rien dit, promis. N'empêche que tout le monde le sait. Belle caricature. L'humour de Jésus va droit au but, mais il est décapant. Il fait du bien. Jésus refuse donc ici pour ses disciples une piété ostentatoire, une piété qui se met en scène pour attirer l'attention sur soi. Et ce désir de se mettre en scène, c'est en soi déjà une trahison de ce qui fait vraiment la piété, mais ça conduit aussi à l'hypocrisie. Comme par hasard, on va se retrouver au coin des rues à l'heure de la prière. Et quand ça arrive, on prend l'air tout surpris, tout désolé, alors qu'on jubile intérieurement. C'est un jeu, c'est une mascarade, une trahison de ce qu'on est censé incarner. Il y a quelques années, un débat a eu lieu à propos des signes religieux ostentatoires, qui étaient interdits dans l'espace public. Le législateur avait employé ce mot « ostentatoire ». Il n'avait pas dit des signes religieux visibles, il avait dit des signes religieux ostentatoires. Et il y avait eu tout un débat à ce moment-là en disant « Mais comment faire la différence entre ce qui se voit, ce qui se montre naturellement, et ce qui est ostentatoire ?» Il y a eu pas mal de débats et certains avaient fait la distinction entre, par exemple, ce qui est ostensible et ce qui est ostentatoire. Ce qui est ostensible, c'est ce qui se voit, ce qui est évident, ce qu'on ne cache pas naturellement parce qu'on le fait. Ce qui est ostentatoire, c'est ce qui se montre, mais de manière à attirer l'attention à tout prix. Et ce que Jésus refuse ici, c'est cela, c'est le côté ostentatoire. Et quand la piété est en cause, si nous vivons une vie de piété dans le sens d'attirer l'attention sur nous, c'est un détournement, c'est une trahison. Mais ça pose quand même la question de la visibilité de la foi. Faut-il tout cacher? Faut-il ne rien montrer par peur d'attirer l'attention sur soi? La question est assez délicate quand même. Jésus, en ce qui le concerne, a agi en public. Il a agi en public. Il a fait des miracles devant tous. Il ne s'est pas caché pour agir, il ne s'est pas caché pour faire des miracles, pour montrer la puissance de Dieu. Ses œuvres rendaient témoignage de lui, et il le dira même, mes œuvres rendent témoignage de moi. Jésus a voulu agir en plein jour. Ce qui était en cause ici, c'était le témoignage. Le témoignage, pour rendre témoignage. Jésus a voulu que ses œuvres soient visibles pour rendre témoignage. Mais c'était un témoignage naturel, on va dire. Un témoignage où l'on ne cache pas ce que l'on est, où l'on ne cache pas ce que l'on croit, ni même ce que l'on fait. Ce témoignage exprime ce que l'on porte en soi, ce que l'on veut donner, ce que l'on veut être pour les autres, ce que l'on veut être pour Dieu. C'est ainsi que Jésus a agi. Mais si Jésus a agi en public, s'il ne s'est pas caché, jamais Jésus ne s'est donné en spectacle pour attirer l'attention sur lui. Lorsqu'il guérissait, lorsqu'il libérait quelqu'un, souvent, il recommandait de n'en parler à personne. Il ne guérissait pas pour faire mousser sa propre image. Il agissait pour le bien des personnes et pour manifester la présence du règne de Dieu. De même pour sa piété, il priait, oui, mais il priait seul la nuit à l'écart. Jamais il n'a mis en scène sa piété. Mais pourtant, Jésus s'est manifesté également publiquement, extérieurement. Il a manifesté ses œuvres, il a rendu témoignage du royaume de Dieu par ses œuvres. Et Jésus a recommandé de traduire en œuvre de manière visible notre foi et notre piété. Il nous demande de ne pas cacher notre drapeau. Il nous demande d'oser dire que nous sommes chrétiens, que nous lui appartenons, d'oser dire l'Évangile. Il nous demande de ne pas avoir honte de lui ni de ses paroles. C'est ce qu'il dit à ses disciples. Mais il s'agit là, dans cette affirmation publique, de rendre témoignage à Dieu, de rendre témoignage à son action, de rendre témoignage à son Évangile. Ce n'est pas nous qui sommes au centre, c'est le Seigneur. Et pour cela, il faut le courage de nous montrer et il faut aussi la cohérence d'une action qui exprime notre foi. La Bible nous fournit même un exemple de quelqu'un qui, de manière tout à fait volontaire, a montré sa piété, l'a affichée extérieurement. Il s'agit de Daniel, quand il était exilé à Babylone. Daniel, je rappelle l'histoire, avait l'habitude de prier 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem. C'était pour lui, alors qu'il était exilé, une façon de dire son espérance que Dieu allait rétablir Jérusalem, son attente de ce que Dieu allait faire. Et il priait de cette façon-là. Ses ennemis ont voulu le faire tomber. Ils ont voté une loi qui interdisait de prier un autre que le roi Darius, sous peine de mort. Une fois la loi promulguée, qu'a fait Daniel ? Comme auparavant, il s'est mis devant sa fenêtre. Il a ouvert sa fenêtre en direction de Jérusalem. Et au vu et au su de tous, il a prié comme auparavant. Il aurait pu prier dans le secret de sa chambre, tout fermé pour que personne ne le voie. Il l'a fait publiquement. C'était pour lui à ce moment-là un enjeu de fidélité, de courage, de fermeté de sa foi, d'attachement à son Dieu, quoi qu'il arrive. Et là, nous avons une foi, une piété qui doit se dire, qui doit se montrer, mais là encore, pour dire l'attachement à Dieu, pour dire la fidélité au Seigneur, quelles que soient les circonstances. Alors, montrer ou ne pas montrer, un commentateur résume assez bien la situation en disant: c'est lorsque nous sommes tentés de nous cacher qu'il faut nous montrer. Et c'est lorsque nous serions tentés de nous montrer qu'il faut se cacher. Et je trouve que c'est un assez bon résumé. Lorsque peut-être par peur de la foi, nous aurions tendance à dire oui, je vis discret, là il faut apprendre à montrer ce que nous sommes, à montrer ce que nous croyons. Mais là où peut-être nous aurions un peu trop envie de nous montrer, de paraître, de parler de nous, etc., là, il faut apprendre la discrétion et apprendre les choses dans le secret. Attention donc aux mises en scène de notre foi. Mais Jésus nous dit que cette mise en scène, elle commence en fait déjà parfois dans notre propre cœur. Nous sommes parfois nos propres spectateurs éblouis. Et il me semble que c'est un petit peu le sens de l'expression imagée lorsque Jésus dit « Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite lorsque tu donnes. » La main droite, c'est en général celle qui donne. Et Jésus suggère que la main gauche, celle qu'il n'a pas donnée, ne soit pas informée de ce que fait la droite. Ça se passe entre mes deux mains, entre moi et moi-même. Que veut-il dire? Est-ce que quand il dit que votre main gauche ne sache pas ce que votre main droite fait, est-ce qu'il veut dire qu'il faut donner sans réfléchir? Qu'il faut donner sans savoir si on a besoin, si on a les moyens, si on peut, si on peut pas, on donne, tant pis, après nous le déluge. Cette question du don, me semble-t-il, fait partie toujours dans la perspective biblique d'une démarche responsable. L'apôtre Paul, en ce qui le concerne, a recommandé aux chrétiens de ne pas s'exposer à la détresse eux-mêmes pour soulager les autres. Quand il propose une collecte, il dit, il ne s'agit pas vous de vous mettre dans la détresse pour soulager les besoins des autres. Il y a donc place, me semble-t-il, pour une question de responsabilité dans la générosité chrétienne. J'ai l'impression que le contexte ici, dans ce que Jésus nous dit, n'est pas une question de est-ce qu'il faut agir de manière responsable, réfléchie ou pas. Le contexte ici est différent. Il parle de la satisfaction que l'on recherche pour soi en faisant le bien. C'est quand même ça dont Jésus parle ici. Et certainement que l'une des formes de cette satisfaction, c'est de se dire et de se redire à soi-même combien on est bon, combien on a été bon, combien on a été généreux. J'ai quand même donné beaucoup à cette personne. J'ai quand même donné beaucoup à cette œuvre. Oui, se dire ce genre de choses-là. Autrement dit, cette histoire de main gauche et de main droite peut se construire de cette façon-là. C'est le regard que nous portons sur nous une fois que nous avons fait le bien. Ma main droite a donné. Ma main gauche a enregistré le montant. Et je me rappelle, quand j'ai donné, du montant que j'ai donné. Je me rappelle de tout cela. Si la main droite se souvient d'avoir donné, la main gauche, elle, fait valoir ce qu'elle a donné. Ah, lui, c'était 172 euros. Ah, oui, je m'en souviens. Elle, 45,90. Pour telle œuvre, j'ai contribué de manière magnifique. Heureusement que j'ai été là. Bon, j'ai aussi défiscalisé pour ça, mais ça, je ne le dis pas. Jésus nous dit, tu as donné de ta main droite. Oublie ce que tu as donné. Oublie le montant. Ne cultive pas la chose. Ne cultive pas les chiffres. Garde la joie simple du don que tu as fait. J'ai connu une personne qui inscrivait sur un petit cahier tout ce qu'elle apportait quand elle allait en visite chez quelqu'un. Si elle allait visiter en visite, si elle était invitée, elle apportait quelque chose, comme on le fait parfois. Et donc elle notait tout ce qu'elle apportait. Et elle notait aussi tout ce que les gens lui apportaient quand ils venaient en visite chez elle. Je crois qu'elle le faisait pour être sûre de n'être jamais redevable à quelqu'un. Mais voyez, ce genre de calcul, ça enlève quand même un peu quelque chose à la joie du don, à la simplicité du don. Ça enlève au but du don qui est de faire du bien, de se faire plaisir mutuellement, et pas d'entrer dans un calcul ou dans une compétition ou dans une relation où on est toujours redevable aux autres. Il me semble que c'est pour ça que Jésus dit, si ta main droite agit, mais que ta gauche, elle ne sache pas, qu'elle retienne pas tout cela. Garde la simplicité du don, garde la liberté de Dieu et ne te mets pas en scène toi-même dans tout ce que tu as pu faire de bien. Ne te fais pas mousser toi-même, même devant toi-même avec ce que tu as pu apporter à X ou à Y. Jésus nous invite à oublier les chiffres pour ne garder que la joie et la simplicité du geste. Et c'est vrai que c'est libérateur. Ressasser pour soi-même les chiffres, c'est mettre l'autre en dette dans notre cœur. Ou c'est nous faire mousser nous-mêmes comme généreux donateurs. Alors, pas de témoin à tout ce que nous faisons, pas de témoin à ce que nous donnons. Ce n'est pas du tout ce que Jésus demande. Car il y a un témoin, et Jésus le valorise, et Jésus nous invite à le valoriser. Ce témoin, c'est notre Père Céleste. Il voit dans le secret et il nous rendra ce que nous avons fait, nous dit Jésus. Et Jésus nous invite à nous placer sous ce regard de notre Père céleste, en parlant même d'une récompense auprès de notre Père céleste. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est d'abord une invitation à placer Dieu, notre Père céleste, au cœur de notre vie morale, au cœur de notre vie de piété. Pourquoi faisons-nous du bien? Pourquoi sommes-nous généreux? Pourquoi prions-nous? Pourquoi jeûnons-nous? C'est pour le Seigneur. C'est pour notre Père céleste. Et Jésus, en plaçant notre Père céleste devant nos regards, pour tout ce que nous sommes et pour tout ce que nous faisons, Jésus nous livre en quelque sorte ici la clé de sa propre vie à lui, la clé de sa propre action à lui. Toute sa vie, toute son action ont été orientées vers son Père, vers le désir de faire ce que le Père lui avait donné de faire. C'est ce qu'il dit à plusieurs reprises quand il parle de ses œuvres. « Je fais les œuvres que le Père m'a donné de faire, je veux les faire. » Toute sa vie était orientée par le désir de glorifier son Père sur la terre. Et juste à la fin de sa vie, avant sa passion, il a pu dire en priant « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. » C'était cela qui le motivait, c'est cela qui le portait toute sa vie, dans tous ses actes. C'était son objectif. Toute sa vie, toute son action était un dialogue avec le Père, un dialogue par la prière, mais aussi un dialogue par l'action. Tous ses gestes, toutes ses attitudes, il les voulait comme une manière d'aimer son Père céleste, de l'honorer, de lui faire plaisir. Et c'est ainsi qu'il se reliait à son Père dans tout ce qu'il faisait. Et c'est ce qu'il nous invite aussi, nous, à faire, en tant que ses disciples, faire de toute notre vie une volonté d'aimer, une volonté d'honorer notre Père céleste. Et c'est pour ça qu'il nous dit, mais ton Père céleste, il est là. Considère ton Père céleste dans ce que tu fais, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu donnes. Considère ton Père céleste, c'est lui qui est devant tes yeux. Alors cela se comprend bien sûr, pour la prière et pour le jeûne. On fait ces choses pour dire au Seigneur qu'il compte pour nous. Quand on s'arrête pour prier, c'est pour lui dire on veut vraiment qu'il ait une vraie place dans notre vie. On veut s'ouvrir à lui. Quand on veut prendre à cœur ce qu'il a à cœur. Quand on jeûne, c'est aussi une façon de dire on veut entrer vraiment dans ses projets. Et on est prêt à se priver pour pouvoir ensemble, pour pouvoir manifester vraiment notre souci de ce que Dieu veut. Ça peut sembler un peu plus problématique de dire, lorsqu'on fait pour la générosité, pour le bien qu'on fait, qu'on veut pour les autres, disons, je le fais pour mon Père céleste. Est-ce qu'il ne faudrait pas, lorsqu'on fait du bien aux gens, viser les personnes elles-mêmes, plutôt que de viser Dieu au travers de ce que nous faisons pour notre prochain? Est-ce que dire « je veux honorer mon Père céleste en faisant quelque chose pour mon prochain », est-ce que ce n'est pas une façon d'instrumentaliser mon prochain? Je lui fais du bien, oui, mais ce n'est pas lui que j'ai en vue, c'est le Seigneur que j'ai en vue. Alors je pense qu'il faut ici faire quelques distinctions. J'instrumentalise mon prochain si, en l'aidant et en lui faisant du bien, j'essaye d'obtenir les faveurs de Dieu, ou j'essaye d'obtenir des mérites pour mon action. C'est vrai que si je fais du bien à mon prochain pour obtenir la faveur de Dieu, ou si je fais du bien à mon prochain pour obtenir des mérites pour moi-même, ben finalement, en dernière analyse, c'est moi qui suis au centre. Hein ? Je veux gagner quelque chose pour moi. Mais ce n'est pas dans cette optique que Jésus nous invite à faire toute chose devant notre Père céleste qui voit dans le secret. Le mérite, nous le savons, n'est jamais la base de notre relation avec Dieu. Notre vie avec Dieu est fondée au contraire sur le don gratuit de Dieu en Jésus qui s'est donné pour nous, qui nous pardonne, qui nous a aimés le premier et qui nous fonde dans l'amour de Dieu. Ce n'est donc pas pour moi que je vais essayer de faire du bien aux autres. En même temps, ce qu'il faut dire, c'est qu'un chrétien, lorsqu'il fait du bien aux autres, n'est pas simplement un philanthrope. Nous ne sommes pas simplement quelqu'un qui aime les autres hommes en se contentant d'un point de vue strictement horizontal. Parce que d'une certaine façon, quand nous avons ouvert notre vie à Dieu, tout ce que nous faisons, y compris au plan horizontal, rentre dans cet horizon de notre relation avec Dieu. Et lorsque j'aime mon prochain, j'aime aussi le Seigneur. Tout cela fait un tout. Aimer Dieu, c'est aussi aimer notre prochain. La foi doit nous pousser plus loin que vers l'amour du prochain. Mais en même temps, lorsque j'aime mon prochain, c'est aussi une façon dont je veux honorer le Seigneur, dont je veux peut-être être son instrument pour faire du bien à mon prochain, dont je veux en tout cas faire plaisir au Seigneur en aimant aussi mon prochain. Mais les deux choses ne se contrarient pas, bien sûr, elles se complètent, ce sont deux dimensions qui s'emboîtent l'une dans l'autre, un peu comme les poupées russes. Mais elles ne sont pas concurrentes, elles se soutiennent mutuellement. Mais ça veut dire que lorsque j'aime mon prochain, je le fais dans le cadre plus large de ma vie devant Dieu. J'aime vraiment ce prochain pour lui-même, comme Jésus l'a fait, lui qui était saisi de compassion pour ceux qui le rencontraient. J'aime le prochain pour lui-même, mais je l'aime aussi dans l'horizon de mon amour pour Dieu. Mais Jésus, quand même, en nous invitant à considérer toute chose à la lumière de l'amour pour Dieu, de ce que nous voulons faire aussi pour le Seigneur, pour notre Père Céleste, Jésus parle quand même d'une récompense, de notre Père Céleste qui nous rendra ce que nous faisons. Quelle est-elle, cette récompense? Et nous voilà la question, est-ce qu'on peut agir de manière désintéressée si on attend une récompense pour nos actes ou une récompense pour notre piété? Il semble que la clé de cette image, de cette question de la récompense, nous est donnée dans l'image de l'homme qui a fait l'aumône en sonnant de la trompette devant lui pour qu'on le remarque bien. Que dit Jésus de cet homme? Il dit, cet homme, il a déjà reçu sa récompense. Il a déjà reçu sa récompense quand il a sonné la trompette devant tous les hommes. Et c'est quoi cette récompense? C'est l'approbation des hommes, le regard favorable des hommes sur lui. Et Jésus nous fait bien comprendre que cette approbation des hommes qu'il a cherchée remplace la récompense qu'il aurait pu trouver auprès du Père. Ce qui veut dire que la récompense qu'il nous faut chercher auprès du Père, c'est de chercher son approbation à lui. C'est de faire ce qui fait sa joie, c'est de lui faire plaisir. La récompense que nous cherchons auprès de Dieu n'est rien d'autre que le fait que nous pouvons peut-être faire plaisir à notre Père. C'est d'entendre le Seigneur nous dire « Bien fait, bon et fidèle serviteur ». C'est d'entendre notre Père Céleste nous dire « C'est bien mon enfant, tu fais ma joie en agissant de cette façon-là ». Quand on aime, la plus grande récompense, c'est de faire la joie de celui que l'on aime. C'est l'aboutissement suprême. Tu feras la joie de ton Dieu. Lorsque les prophètes annoncent vraiment l'aboutissement de la relation entre Dieu et son peuple, c'est ça ce qui est dit au peuple de Dieu. Tu feras la joie de ton Dieu. Et la récompense que nous sommes appelés à viser n'est autre que de cela. Faire la joie de notre Dieu. C'est cela ce qui doit nous motiver. C'est ça ce qui doit nous animer dans tout ce que nous faisons. C'est ça ce que nous sommes appelés à rechercher, faire la joie de notre Dieu. Et si le Seigneur a un peu de joie avec nous, c'est notre bonheur suprême, c'est notre récompense la plus grande. On voit ici le détournement et la pauvreté en même temps de celui qui utilisait sa piété pour se faire mousser lui-même devant les autres. Jésus lui dit, mais tu l'as déjà ta récompense. Mais cette récompense, c'est celle que tu t'es fabriquée toi-même. Ce que tu as cherché toi, mais dans un acte qui était tourné vers toi-même et non vers Dieu. Alors n'attend rien du Seigneur. Hein? Il n'était pas dans ton viseur. Hein? Tu t'es toi-même appauvri finalement en cherchant ta propre récompense avec les honneurs des hommes et l'approbation des hommes. Mais si nous cherchons à faire plaisir à notre Dieu, si nous faisons chaque chose grande ou petite, public ou privé, visible ou caché, si nous les faisons avec le désir de lui plaire, Jésus nous assure que son Père, que notre Père Céleste, voit dans le secret. Il voit dans le secret. Il sait toutes choses. Il est attentif à ce que nous voulons faire pour lui. Il apprécie ce que nous lui offrons. C'est ce que souligne Jésus lorsqu'il dit que notre Père céleste nous rendra ce que nous faisons pour lui. Alors faut-il nous cacher pour faire le bien, ne jamais rien dire, ne jamais montrer, rester transparent, rester incognito? La solution n'est pas là. Car même en faisant cela, on peut se mettre en scène devant soi-même. La clé est ailleurs. Ce qui compte, nous dit Jésus, c'est de tout faire dans l'amour du Seigneur. Et c'est de cultiver en toute chose, grande ou petite, le désir de lui plaire, le souci de l'honorer, comme Jésus avait ce souci d'amour pour son Père. Quand cela nous anime, quand cela est vraiment vivant en nous, peu importe que l'action soit privée ou publique, qu'on en parle ou qu'on se taise, si on en parle, ce sera avec simplicité, sans ostentation, parce qu'on vit profondément cela comme un privilège, comme un cadeau d'avoir pu faire quelque chose avec Dieu, ou quelque chose pour Dieu ou pour notre prochain. Tout s'ordonne dans l'amour. Tout sens dans cet amour, ce désir de faire plaisir à Dieu et d'aimer notre prochain. Tout devient simple et naturel dans l'amour. Et c'est cela qu'il nous faut cultiver. C'est cela qu'il nous faut chercher. Et ça permet de dépasser toutes les questions de visible, pas visible, qu'on en parle, qu'on n'en parle pas. Écoutez l'apôtre Paul. Il était tellement conscient qu'il devait tout à Dieu, tout à la grâce de Dieu dans sa vie, lui qui avait persécuté l'Église de Dieu. Et il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis qui je suis. Hein, je dois tout à la grâce de Dieu. Et sa grâce, dit-il, envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Mais non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul peut dire, oui, j'ai travaillé, je me suis donné, et même plus que tous. Mais ce n'est pas de l'orgueil. C'est vraiment une reconnaissance. Ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu en moi qui a rendu possible cela. Vivons donc devant Dieu avec cette simplicité. Jésus nous donne ici une belle ligne pour notre conduite de chaque jour, pour nos actes les plus humbles comme les plus élevés. Faisons toutes choses pour faire plaisir à notre Dieu. Ayons cette motivation profonde, lui qui nous a aimés, envers lui qui nous a aimés le premier. Et Jésus nous dit, ton Père céleste qui voit dans le secret, te le rendra. Tu feras sa joie. Que nous puissions faire ainsi la joie de notre Dieu. Ce sera notre récompense. Amen.